Explore Demain, le forum de l'économie sociale et solidaire en Mayenne, organisé par la PES53. Propos introductifs par Jean-Pierre Berson, président de la PES53.
Bonjour à toutes et à tous. En 2022, vous le savez peut-être, en Mayenne, l'économie sociale et solidaire, c'est 12 388 emplois, ce qui représente 12,3% de l'emploi total du département. Ce n'est pas rien, c'est vraiment une activité économique importante. La Mayenne est le 30e département en termes d'emploi ESS en France et bien placé dans les Pays de la Loire. La signature, jeudi dernier, par la région Pays de la Loire et l'État de la stratégie régionale pour l'économie sociale et solidaire laisse penser, au travers des discours du préfet de région et de l'élu de la région en charge du dossier, M. Grelier, la Banque des Territoires également, que l'ESS est reconnue comme une économie dynamique, porteuse d'avenir dans le contexte d'aujourd'hui et ses enjeux. Économie circulaire, récupération, recyclage, traitement des déchets, tiers-lieux, aménagement du territoire, emploi, bien sûr, et bénévolat, autant de sujets évoqués lors de cette signature. Vous le savez, la PES a pour mission, en tant que réseau local départemental, de représenter, soutenir, développer, accompagner humainement et techniquement les projets ESS, qu'ils soient portés par une personne ou par des collectifs. Ainsi, dans le cadre du mois de l'ESS, la PES a décidé de proposer une journée phare pour faire mieux connaître au monde économique, au sens large, et aux citoyens, l'ESS. Valoriser les acteurs, mettre en lumière cette façon d'entreprendre, humaine, locale, démocratique, dynamique économiquement, créatrice d'emplois, et aussi importante pour l'aménagement du territoire et le lien social, et pour faire face aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Donc la PES a pensé cette journée comme un voyage, explore demain, dans cette période d'incertitude et d'inquiétude. Immédiatement, Laval Économie a répondu présent pour la co-construction du projet de cette journée. Merci vraiment pour cette belle coopération et ce soutien financier. Merci également à la MAIF pour sa contribution financière. Mais bien sûr, cette journée ne pourrait avoir lieu sans les structures et les entreprises de l'ESS. Merci à tous ceux qui ont répondu présent, car si la PES est le réseau local de l'ESS, c'est bien avec vous tous, les acteurs, qu'elle active ses missions.
Alors, table ronde, qui est pour le sujet « Comment l'économie sociale et solidaire peut-elle davantage s'affirmer et se faire reconnaître pour une réelle transformation sociale et environnementale ?» Les invités donc de cette table ronde, Jean-Louis Laville, tout de suite à ma gauche, professeur au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, titulaire de la chaire économie solidaire, auteur du livre « La fabrique de l'émancipation, repenser la critique du capitalisme à partir des expériences démocratiques, écologiques et solidaires ». Jean Gattel, juste à côté, tout premier secrétaire d'État à l'économie sociale et locale entre 84 et 86, député du Vaucluse également entre 80 et 83, puis 88 et 93, auteur du livre « L'économie sociale et solidaire, un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir » aux éditions Libre et Solidaire, et également « Demain, il sera trop tard, comment sortir de la crise systémique du capitalisme ». Et enfin, Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine Village et professeure associée à l'Université de Caen-Normandie, notamment dans le cadre du Master Développement Durable, Stratégie de Concertation et de Communication. Je crois que j'ai tout bon. Voilà pour les présentations. On a eu un petit peu une définition de l'économie sociale et solidaire il y a quelques instants. Il a été dit que la PES travaille beaucoup, et c'est vrai. Il y a à peu près un mois, nous avons eu une table ronde concernant la place des femmes dans l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et à la fin de la table ronde, il y a une des personnes qui étaient dans le public qui a levé la main et qui a demandé « Mais excusez-moi, qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire ?» Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un loup à ce niveau-là, c'est que ce n'est pas tout à fait clair. Donc, moi, je vais donner la définition que j'ai récupérée sur le site du gouvernement, tout simplement. Et puis ensuite, j'aimerais bien que vous me donniez, chacun à votre tour, la définition que vous en avez de l'économie sociale et solidaire. Donc voici ce qu'en donne le site du gouvernement. Le concept d'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent. Le profit individuel est proscrit, les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques. Alors je vais vous demander, je vais commencer par vous, Sylvie Le Calvet. Même si ce n'est pas votre spécialité, il faut préciser que ce n'est pas votre spécialité, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Vous, pour vous, comment vous définiriez l'économie sociale et solidaire? Quelle image en avez-vous?
Oui, c'est pas la même question, d'ailleurs, sur quelle image j'en ai ou sur comment je définis.
Non,
je me garderais bien de donner une définition que vous avez d'ailleurs donnée sur une officielle. Je laisserai effectivement les spécialistes de la question de l'ESS compléter s'ils le souhaitent. Village, c'est un magazine sur le développement local, sur le développement territorial, sur les innovations dans les territoires et les innovations en milieu rural. Et on s'aperçoit au magazine que la plupart des sujets dont on fait l'écho, comme journaliste, sont finalement des initiatives portées par des structures associatives, coopératives, sociétés coopératives d'intérêt collectif aujourd'hui de plus en plus. Donc effectivement, quand on regarde le magazine, on se dit, mais il y a plein d'initiatives qui concernent l'ESS quand on prend la définition que vous avez donnée. Mais nous, on a une entrée, qu'est-ce qui se passe dans les territoires ruraux, comment on innove, qui innove, sous quelle forme, qu'est-ce que ça produit en termes de liens, en termes de valeur ajoutée pour les territoires. Et c'est là qu'on voit la place de l'ESS telle que vous l'avez décrite tout à l'heure. Donc on en a une vision à travers le développement local dont on mesure bien l'importance pour rendre des services aux habitants dans les territoires.
Et le développement local, on y parlera parce que ça fait partie vraiment, c'est même l'essentiel de ce qui fait l'économie sociale et solidaire. Peut-être c'est une des discussions que nous pourrons avoir. Jean Gattel, vous, quelle est votre définition de l'économie sociale et solidaire?
Je trouve que la définition du gouvernement est pas si mauvaise que ça. La seule chose qui m'énerve un petit peu, c'est lorsqu'il conclut en disant que les ressources financières des entreprises de l'économie sociale sont essentiellement sous forme de subventions. C'est totalement faux. Ça renvoie d'ailleurs à une connotation idéologique qui est insupportable, venant d'ailleurs des milieux de l'économie dominante. En réalité, les entreprises de l'économie sociale, elles sont la plupart du temps en situation concurrentielle sur le marché et elles ont des ressources qui ne viennent pas simplement des politiques publiques. Elles ont des ressources qui peuvent venir du coût des prestations ou des objets qu'elles vendent ou qu'elles délivrent. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, moi j'ai l'habitude de faire une différence entre deux économies sociales, hein, et ça je l'ai fait dès le départ lorsque François Mitterrand m'a confié le premier secrétariat d'État à l'économie sociale qui a été créé en France en 1984. J'ai toujours distingué l'économie sociale installée, donc essentiellement définie par des statuts, mutuelles, coopératives et associations, avec une économie sociale émergente, c'est-à-dire, comme l'a très bien dit Sylvie, qui vient de la vitalité des territoires à apporter des réponses aux besoins de ce territoire. Donc effectivement, on a d'un côté une économie sociale qui se définit d'abord par des statuts, il y aurait beaucoup à dire parce que selon la formule consacrée, statut n'est pas vertu, et une économie sociale qui est celle du développement territorial, d'une société qui bouillonne, qui essaye de répondre à des demandes nouvelles et qui s'investit dans toute une série de projets capables de répondre au dynamisme du territoire. Et la plupart du temps, c'est vrai que ces projets sont portés par des acteurs de l'économie sociale, mais pas tous. En plus, la loi de 2014, du 31 juillet 2014, a ajouté à côté des trois familles historiques une famille qui s'appelle l'entrepreneuriat social, qui permet donc à des entrepreneurs, même en SARL ou en SAS, de s'inscrire dans le champ de l'économie sociale. Donc c'est un monde qui bouillonne et dont je pense on peut attendre que le meilleur.
Merci. Jean-Louis, la ville, il est devant vous le micro.
Oui, je vais continuer un peu sur la piste qu'empruntait Jean. Je crois que si on veut savoir ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ça réclame un peu de revenir à comment ça s'est constitué, quelle a été l'histoire. Je crois que le premier élément qu'on doit retenir, c'est que la première vague d'associations ouvrières et paysannes que l'on a connues, c'est dans la première moitié du 19e siècle, donc c'est pas tout récent. Il existait une économie sociale et solidaire avant la loi de 2014. Et c'est quoi cette première vague d'économie sociale et solidaire? C'est des associations qui se constituent pour arriver à concrétiser les principes de la République. Hein, c'est-à-dire qu'on avait affiché sur le fronton de nos mairies liberté, égalité, fraternité, c'était pas du tout réalisé. Hein. Et donc il s'agissait de s'associer pour constituer des formes de solidarité qui allaient permettre de traduire dans la réalité ces principes qui ne devaient pas rester simplement abstraits. Hein. Et c'est comme ça qu'on a inventé la solidarité démocratique, qui a été introduite par des auteurs comme Pierre Leroux en 1840. La solidarité démocratique, selon lui, c'est ce qui succède à la charité en démocratie. Donc on a eu un mouvement de démocratique qui explique l'émergence de cette économie que l'on appelle aujourd'hui économie sociale et solidaire. Ensuite, ça s'est cristallisé dans la deuxième moitié du 19e siècle autour de statuts d'entreprises non capitalistes. Hein, et là, on a commencé à distinguer ce qu'étaient les coopératives, les mutuelles, et puis aussi, ça a perdu un peu le fil avec ce qui venait pourtant de la même racine, c'est-à-dire les syndicats. Et un peu plus tard, on a reconnu les associations en tant que statuts. Et donc, il y a un secteur d'économie sociale qui s'est consolidé autour de ces statuts. Et à partir des années 1970, sous l'influence d'un certain nombre de nouveaux mouvements sociaux, on a eu une nouvelle vague d'une économie sociale liée au développement local. Et ça, je pense que ce que tu rappelais comme tournant en 1984, c'est important parce que c'est cette rencontre entre développement territorial et économie sociale. C'est aussi ce qui a donné lieu à des expériences qui se sont désignées elles-mêmes comme économie solidaire, hein, c'est-à-dire qui, et c'est là où on se différencie de la définition du gouvernement, qui ne se reconnaissent pas dans le fait que ce soit seulement des entreprises. C'est autre chose que des entreprises, c'est aussi des initiatives solidaires, ça veut dire que c'est des moyens de démocratiser l'économie à partir d'engagements citoyens. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus complètement se limiter à l'idée que ce sont des entreprises. Il y a une dimension d'entreprise et il y a aussi une autre dimension d'engagement citoyen qui est très présent.
Je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Ici, on est, j'imagine, à peu près tous convaincus de l'importance de l'économie sociale et solidaire. Peut-être qu'on l'idéalise un petit peu, d'ailleurs, par certains points. Peut-être qu'on y reviendra. Donc, on a une belle image de l'économie sociale et solidaire. Dans la pensée dominante, l'idéologie dominante, qui est capitaliste, libérale, quel est, vous, qui pratiquez, qui démontrez, qui parlez de l'économie sociale et solidaire, quelle est l'image qu'en a l'idéologie dominante de l'économie sociale et solidaire? Quelle image elle a de cette économie? Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement à la marge ou est-ce que justement il y a cette idée que finalement elle s'intègre dans l'économie globale et qu'elle a son poids et un avenir? Peut-être qu'on peut commencer par vous, Jean Gattel.
Oui. Je pense qu'il y a de la part de l'économie dominante deux regards. Il y a tout d'abord un regard qui est complètement idéologique, hein, qui vient des grandes entreprises et pour lequel l'économie sociale est simplement une économie de réparation. On lui délègue des fonctions qui sont les conséquences de la loi du marché. Hein. Le marché, c'est un mécanisme terrible, hein, qui crée des exclusions, qui crée des gens qui sont largués. Et donc, pour une partie des entreprises importantes, hein, l'économie sociale doit rester dans ce champ de la réparation. Hein, et puis basta, qu'elle ne sorte surtout pas de ce champ. On peut constater quand même que depuis une dizaine d'années, il y a eu un autre regard d'une autre partie du patronat, hein, ou des chefs d'entreprise qui sont dans l'économie classique, hein, en termes de statut d'entreprise, donc SARL, SAS, qui considèrent quand même que l'économie sociale, elle est porteuse de valeurs qu'il serait tout à fait bon d'intégrer dans leurs entreprises, en particulier quant à la ce qu'on pourrait appeler la gouvernance partagée, quant à la volonté de faire des actions sur le plan social ou sur le plan environnemental. Alors c'est ce qu'on a appelé d'abord dans un premier temps la RSE, hein. Maintenant je ne sais pas très bien comment on peut appeler cette espèce d'appel de la part de l'économie orthodoxe à l'économie sociale, hein. Bon, on parle beaucoup de greenwashing, hein, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises finalement qui, pour essayer de masquer les travers de leur fonctionnement et les profits immenses qu'elles dégagent, et puis les relations sociales internes à l'entreprise qui sont absolument insupportables, qui se donnent bonne figure, hein, en faisant un petit peu de travail en direction de l'environnement, en direction du territoire local, hein. On voit des entreprises qui s'impliquent pour faire un petit peu du parrainage d'entreprises, mais disons que grosso modo nous sommes dans deux systèmes de pensée économique, hein, qui sont radicalement différentes, hein. Il y en a un qui est pour le maintien et l'adaptation du système de développement actuel, et puis il y a au sein de l'économie sociale, et je crois que Jean-Louis et moi nous portons un petit peu cette vision là, une vision de l'économie sociale comme profondément transformatrice, hein, et capable d'être une alternance à terme au système économique dominant qui, de toute façon, est voué à se casser la gueule. Donc il faut bien qu'on commence à préparer l'après.
On en parlera justement de oui. Cette cohabitation ou non des deux systèmes. Donc cette image, Jean-Louis Laville, que peuvent avoir les personnes qui ne sont pas impliquées dans l'économie sociale et solidaire, en gros, quelle image en ont-ils d'après votre expérience ?
Ben, ça dépend de qui on parle, je reprends là aussi ce que tu indiquais, de qui on parle dans la soi-disant économie dominante qui elle-même n'est pas homogène. Hein. Si on prend par exemple les positions qui ont été celles du MEDEF depuis plusieurs décennies sur l'économie sociale, c'est l'idée que de toute façon cette économie ne peut être que parasitaire, ne peut être que subventionnée, parce que la seule économie qui est vraiment efficace et efficiente, c'est le capitalisme marchand. Ça, c'est pas un fait, c'est une idéologie. Mais comme tout repose sur l'idée que ce serait le capitalisme marchand qui crée les richesses et que le reste de la société les dépenserait, hein, ben, y a une nécessité de continuer à entretenir cette mythologie. Mais on voit bien que cette mythologie, elle est complètement à côté de la réalité. Par contre, du point de vue des responsables d'entreprise, du point de vue des gens qui travaillent sur les mêmes territoires, là, il y a des synergies possibles. Il y a des gens qui se rendent bien compte que, finalement, entre certaines PME, entre des commerçants et des artisans, et puis l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas beaucoup de différence, parce que ces formes d'économie territorialisées, elles gardent un lien avec la volonté d'améliorer la façon dont les gens vivent sur le territoire. Et c'est là où on rejoint la publication que anime Sylvie. C'est là où, effectivement, il y a à la fois une économie qui est devenue très financiarisée, internationalisée, et qui a perdu tout lien avec un ancrage concret dans un territoire. Et il y a des formes d'économie qui restent territorialisées, parmi lesquelles l'économie sociale et solidaire figure en bonne place.
Sylvie, je vous voyais acquiescer et noter.
Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter après ce qu'a dit Jean-Louis Laville. Je partage complètement ça. Nous, plein de fois, à Village, on nous a dit « votre association ». Ben non, on est en SARL. Et pourtant, on a un règlement intérieur où on n'a jamais fait de profit. Il n'y a jamais eu de redistribution à aucun des associés. À chaque fois qu'on a des difficultés, c'est les associés qui font au mieux pour que ça survive. Comme beaucoup d'artisans, de commerçants, quand il y a des difficultés, ben c'est ceux qui, en premier, ne se rémunèrent pas. C'est les décisions un homme, une voix, aussi bien pour les salariés que pour les associés. Donc on a mis ça en place dès le début de la création, et pourtant on est une SARL. Donc effectivement, ce n'est pas le statut qui définit le fonctionnement d'une entreprise, surtout en ce qui concerne des PME ou des toutes petites entreprises dans des territoires ruraux. Ça, c'est vrai. Et de dire aussi... l'économie sociale et solidaire serait une économie subventionnée et pas l'autre, mais on est tous subventionnés. Je veux dire, les agriculteurs aujourd'hui qui ne sont pas une structure de l'ESS, qui ne sont pas en association, ils peuvent l'être, mais enfin bon, à la marge, ou des industries, tout le monde est subventionné à son niveau, que ce soit pour l'apprentissage, que ce soit pour, je sais pas, des coûts postaux, pour tout, quoi. Enfin bref, je ne vais pas énumérer tous les secteurs qui sont subventionnés à chaque fois, parce que plus encore qu'avant, aujourd'hui c'est le cas. Donc dire, et pas forcément que les petites entreprises ou que. De dire que c'est des associations qui ont besoin de subventions publiques. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce monde-là. Si les agriculteurs, demain, notamment pour des producteurs laitiers ou de viande, ils n'ont plus de subventions, beaucoup vont mettre la clé sous la porte, la plupart d'ailleurs d'entre eux. Donc, c'est vraiment très... c'est clivant, alors que ça n'a pas lieu d'être. Surtout sur un territoire rural comme celui de la Mayenne, où effectivement, les coopérations... Et on ne se regarde pas en disant « Ah bon, mais toi, t'es association, toi, t'es en entreprise individuelle, toi, t'es en SRL... » Jamais on en parle. On coopère, on mène des projets en commun et on se dit pas t'es sous quel statut. Donc c'est plus une histoire de volonté de faire vivre son territoire autrement qui nous réunit qu'une histoire en tout cas statutaire de l'un contre l'autre.
Par rapport à... Vous vouliez réagir, Jean Cattel ?
Je voulais compléter ce qu'a dit Sylvie quant à l'hypocrisie du système. Il faut que notre honorable assistance sache que le premier poste de dépenses budgétaires en France, c'est l'aide au secteur privé et aux grandes entreprises, avec un budget d'aide à ces grandes entreprises qui est supérieur à celui de l'éducation nationale.
D'accord. Alors, on parle d'image, parce que peut-être que l'idée, ce sera justement de parler de son évolution, comment on peut la faire progresser. J'ai parlé d'idéalisation tout à l'heure. Est-ce que, au sein même de l'économie sociale et solidaire, on n'idéalise pas un petit peu ce secteur ? Je prends pour exemple, j'en parlais, nous avons organisé une table ronde autour de la place de la femme dans l'économie, dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et on peut dire que finalement le bilan n'était pas glorieux, c'est-à-dire que l'ESS n'était pas tellement meilleur que les autres entreprises. Est-ce qu'on, très rapidement, on n'idéalise pas un petit peu parfois l'ESS ? Jean-Louis Laville, qu'en pensez-vous ?
Je pense que le problème, c'est de sortir des clichés dans un sens ou dans un autre. On mentionnait les clichés qui vont considérer, en gros, que l'économie sociale et solidaire est une sous-économie. Il ne faut pas qu'on tombe dans le cliché inverse qui serait de considérer que l'économie sociale et solidaire est angélique. Vous preniez, par exemple, la question de la place des femmes dans l'économie sociale et solidaire. La première chose qu'il faut dire, c'est que dans le monde... C'est 70% des femmes qui animent les structures d'économie sociale et solidaire. Et ceci n'a été que très peu pris en compte dans les mouvements de l'économie sociale et solidaire. Et il s'est constitué à partir de 2011, avec les États généraux de l'économie sociale et solidaire, un groupe qui a été dédié à cette question-là. Et ce groupe, il n'a pas... forcément eu une grande facilité à se faire entendre dans certains milieux de l'économie sociale. Donc je crois que c'est une lutte aussi d'essayer de voir ce qui peut être positif au sein de l'économie sociale et solidaire sans considérer que c'est forcément quelque chose qui est absolument magnifique. Il faut bien voir que ça permet, malgré tout, qu'il y ait des expériences qui se mènent et que ces expériences soient... considérées comme des expériences qui ont une légitimité à exister. Je crois que c'est ça avant tout. Il ne s'agit pas de dire que c'est un modèle idéal, mais il s'agit de dire qu'il y a plusieurs formes d'économie qui ont le droit d'exister et qu'aujourd'hui, si on se contente du modèle dominant, eh bien ce modèle dominant, on le sait maintenant, en particulier depuis ce qui s'est passé dans les dernières décennies, il nous mène dans une impasse, il nous mène dans un mur, d'où l'urgence d'avoir aujourd'hui une diversité de modèles en économie pour choisir vers lequel on veut aller sans en idéaliser aucun.
Jean, vous vouliez réagir ?
Oui, je crois que le problème que tu poses se pose essentiellement dans les grandes structures où effectivement parfois on a du mal à voir ce qui reste des valeurs fondamentales de l'économie sociale, comme la gouvernance partagée ou l'association de l'ensemble des salariés aux décisions prises dans l'entreprise. Et l'un des grands problèmes, nous en parlions hier soir avec quelques amis, c'est à l'intérieur des grosses structures, et en particulier même dans le mouvement associatif, la rencontre parfois extrêmement pénible entre le pouvoir politique, qui est celui des administrateurs, et le pouvoir technique, qui est celui de la direction de l'association. Parce que très souvent, alors il y a les deux inconvénients, où le pouvoir politique impose au pouvoir technique gestionnaire un certain nombre d'obligations qui sont impossibles à assumer compte tenu d'un environnement concurrentiel, ou bien inversement, c'est le pouvoir technocratique qui a pris complètement le pouvoir par rapport au pouvoir politique, et les conseils d'administration finalement ne servent qu'à ratifier des décisions managériales. Donc il y a un équilibre qui a trouvé entre le fait que le pouvoir politique doit être le garant des valeurs fondamentales de la structure et le pouvoir technocratique qui a tendance parfois à s'en éloigner parce qu'il est plongé dans des circonstances de concurrence, etc. Et on voit bien, par exemple, ça fait rigoler tout le monde quand on dit que le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel sont encore des banques coopératives, parce que il n'y a rien dans leur fonctionnement, sauf que aux assemblées générales locales de ces deux banques, il y a quand même des gens qui votent, et donc on pourrait dire que quand même les principes de l'économie sociale un homme, une voix sont respectés. Mais en réalité, quand on monte au niveau des échelons supérieurs, on voit bien que le pouvoir politique qui devrait être garant des valeurs, ne l'est plus. Hein, et c'est valable en particulier dans le secteur bancaire, au niveau de grandes mutuelles ou des grandes sociétés d'assurance. Mais je ne veux pas m'aventurer trop loin sur ces critiques parce que...
Voilà, Sylvie.
Oui, juste un témoignage là sur... Donc j'ai une double casquette effectivement puisque je suis aussi enseignante à l'université de Caen sur un master de développement durable et les étudiants ont le choix évidemment pour leur carrière et déjà pour leur stage de fin d'études de master 2 travailler soit dans une collectivité territoriale, dans une association ou une coopérative ou dans une entreprise privée. Et à chaque fois, ils partent avec une idée en tête pour leur stage. Non, ah, moi, je veux être dans le privé, ou moi, je veux être dans l'associatif, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est important, les valeurs, etc. Soit je veux travailler dans une collectivité territoriale, de sécurité, de prestige, etc. Nous, on n'est pas là du tout pour juger ça, c'est leur choix, etc. Et quand ils reviennent du stage long et qu'ils font leur soutenance, à peu près 1 sur 2 ont changé d'avis. C'est-à-dire qu'ils se disent, que ce soit dans le privé en disant... Oh là là, ah non, non, en termes managériaux, ça allait ou ça n'allait pas, mais des fois ça ne va pas. Que dans l'associatif, en disant, j'étais allé dans une association, je me suis retrouvé tout seul, finalement j'étais le seul permanent, je ne suis pas encadré, c'est le président, il est tellement occupé qu'il ne s'occupe pas de moi, etc., etc. Donc il n'y a pas de. C'est pas organisé, c'est le bazar. En plus, on ne sait plus qui décide quoi, quand il y a un permanent entre le service, effectivement. Technique, j'allais dire, et puis le politique. Et donc, je ne m'attendais pas à ça, mais finalement, voilà, je ne veux pas être là-dedans parce que ça bidouille. Enfin, on a vraiment ce genre de réaction après. Et puis, je ne parlerai pas du sujet des collectivités puisque ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, la vertu ou la capacité à former, même, puisqu'on parlait tout à l'heure des femmes, mais aussi à former des jeunes, par exemple, ce n'est pas plus réussi dans le champ de l'ESS que dans le champ du privé. Et je n'ai pas dit moi non plus. Je dis juste qu'effectivement, il y a des limites partout dans toute structure. C'est une question d'hommes et de femmes qui ont pris à bras le corps la question dans laquelle ils sont. Est-ce que l'association dans laquelle on est a toujours un sens? Est-ce qu'elle répond toujours à une utilité? Laquelle? Pour quelle valeur? C'est ça qui fait la différence. Et puis ceux qui sont à la manœuvre aussi, bien sûr, au niveau technique. Donc voilà, pour compléter ce qui était dit par un témoignage, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de... on ne peut pas se contenter d'un statut pour dire ça répond à des exigences en matière d'égalité hommes-femmes, de formation, d'éthique, etc. Jean, qui a le micro pour ajouter des choses.
Oui, Moi, j'ai un petit peu travaillé sur le problème du genre en économie sociale et je voudrais confirmer ce qu'a dit Jean-Louis. La plupart des salariés, en particulier dans le mouvement associatif et surtout dans ce qui est social et médico-social, sont des femmes. Et on voit que plus on remonte dans la pyramide des responsabilités, elles disparaissent. C'est-à-dire que les postes de responsabilité sont captés par les hommes, par les mecs.
Merci. Je vais donner les chiffres. Les chiffres ont déjà été donnés, je vais les redonner. Mais au niveau national, peut-être que Jean-Louis, vous pourrez nous en donner un peu plus au niveau international. Enfin, peut-être pas des chiffres, mais l'état de l'ESS au niveau international. L'ESS représente 10% du PIB, près de 14% des emplois privés en France. Ce secteur compte environ 200 000 entreprises et structures et 2,38 millions de salariés. Alors juste déjà... est-ce que c'est une insulte à l'ESS de l'inclure dans le PIB qui est un petit peu décrié en ce moment, qui est critiqué sur la manière dont il est calculé? Est-ce que c'est une injure de lui faire de l'inscrire dans le PIB ou est-ce que ce sont deux choses qui peuvent aller de pair, Jean-Louis?
Je vois pas pourquoi ça serait une insulte de l'inscrire dans le PIB à condition évidemment de pas se contenter d'avoir une appréciation qui soit gouvernée par cette idée de produit intérieur brut. Le vrai problème que l'on a, c'est le problème de qu'est-ce que c'est que la richesse, comment est-ce qu'on mesure la richesse, et le fait que ce modèle que l'on appelait tout à l'heure le modèle dominant, il se caractérise par tout un ensemble d'externalités négatives, hein, c'est-à-dire qu'il fait peser le poids de ces pollutions, de ces inégalités sociales sur l'ensemble de la société. Et donc on a un modèle qui est un modèle finalement qui paraît efficace et efficient si on ne considère que les éléments au niveau microéconomique, mais qui au niveau de l'ensemble fait peser tout un ensemble de problèmes sur le reste de la société. Donc c'est de ça dont il faut sortir. Et je crois que le premier signe encourageant, c'est que le développement de l'économie sociale et solidaire que l'on mentionne aujourd'hui en Mayenne et en France, c'est un phénomène mondial. C'est-à-dire que je crois que ça, c'est l'un des premiers éléments sur lesquels on peut réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs décennies que c'est dans le monde entier qu'il y a une augmentation des initiatives dans l'économie sociale et solidaire. Et que depuis le début du XXIe siècle, il y a une trentaine de pays qui ont reconnu par des lois, qui ont reconnu par de nouvelles politiques publiques l'existence de cet ensemble. Alors toutes ces politiques sont critiquables, il n'y en a aucune qui soit parfaite à nouveau, puisque nous ne vivons pas dans un monde idéal, ça a déjà été signalé. Mais je crois qu'il y a un mouvement malgré tout qui est en train de se faire. Ce mouvement, il suppose effectivement qu'il y ait aussi de nouvelles façons d'envisager la politique, hein. Et cette nouvelle façon d'envisager la politique, ça veut dire aussi que les politiques qui sont destinées à l'économie sociale et solidaire, elles seront d'autant plus appropriées, pertinentes, qu'elles seront conçues à travers des dialogues entre les acteurs de cette économie sociale et solidaire et les responsables publics. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Il a l'air d'accord, hein, Jean.
Oui, je suis bien sûr à 100% d'accord. D'ailleurs, ça correspond au but de la création de mon secrétariat d'État, puisque en 1984, c'est l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont demandé au président Mitterrand de créer un poste qui soit au sein de l'appareil d'État et un correspondant qui permette de faire remonter au niveau des pouvoir public les demandes de l'économie sociale. Alors, soit des demandes en termes de changement juridique, hein, et j'ai dû en assumer quelques-unes au cours des deux années de ma mandature, ou bien des demandes au niveau financier sur des objectifs précis. Alors, par exemple, j'avais signé plusieurs contrats d'objectifs pour permettre de développer un certain nombre de structures de l'économie sociale. Je me rappelle en particulier d'un contrat de plan que j'ai signé avec la Confédération nationale des SCOP pour leur donner un certain nombre d'objectifs de création de nouvelles SCOP à l'horizon de 2 ou 3 ans. Donc il y a une nécessité effectivement d'une harmonie intelligente entre les puissances publiques, les politiques publiques et le développement de l'ESS, hein, dans le respect de l'indépendance de l'un et de l'autre. Quand on regarde ce qui se passe en France, on voit qu'on est loin de ce partenariat, hein, puisque le budget de l'économie sociale en France est tellement ridicule que je n'ose pas même vous donner les chiffres.
Si, on aime bien les chiffres.
Voilà. Donc il est de 40 millions d'euros sur un budget de 300 milliards du budget de l'État. Donc vous voyez un petit peu à quel point le gouvernement se fout éperdument du développement de l'économie sociale, puisque par exemple les 40 millions dont dispose Madame Schiappa sont inférieurs aux 130 millions dont dispose Madame Borne, ne serait-ce que pour faire fonctionner Matignon. Donc voilà, c'est la pauvreté. Alors, il y a également peut-être des responsabilités à mettre du côté des acteurs de l'économie sociale. Ils ne sont jamais arrivés à se transformer en lobby véritablement prégnant sur les décisions politiques. Et pourtant, comme tu l'as dit, hein, les chiffres sont là. 2 600 000 salariés, hein, c'est l'équivalent du BTP. Et c'est 4 fois plus que l'industrie automobile. Alors comment se fait-il que dans un pays comme la France, on parle constamment de secteur industriel et qu'on ne parle pas de ce qui est quand même un môle déterminant dans la stratégie de développement de notre pays? 2 600 000 salariés, c'est quand même pas rien.
Hein. Alors pourquoi pas de... Sylvie, vous vouliez réagir?
Oui, alors, je ne sais pas, c'est peut-être une question qui viendra plus tard, mais enfin, peu importe,
c'est pas grave, si
on peut faire dans le désordre. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Jean, moi j'avais vraiment aimé, hein, là, en tant que communication, l'artisanat première entreprise de France, ou quelque chose comme ça, je crois que c'était ça le terme. Oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils se sont dit, mais en fait, on est plein de petits, on pèse pas, on n'a pas de... On n'est pas de lobby, mais finalement, quand on rassemble tout le monde, c'est une véritable force sur le territoire. Et je trouve que c'est ça que n'arrive pas à faire aujourd'hui l'ESS, peut-être parce que le mot ESS, alors là c'est de la sémantique, mais économie sociale et solidaire, paraît un peu techno, donc c'est de quoi on parle, de quoi on est, et qu'il faudrait transformer. Et pour répondre au thème de la table ronde d'aujourd'hui, qui est comment on peut faire, moi je ne sais pas, je n'aurais pas la prétention d'avoir cette réponse.
C'était en effet la question que j'allais poser, mais comment faisons-nous?
Voilà, comment on fait? Eh bien, effectivement, je pense que ça ne peut passer aussi que par un récit sur ce que produit et ce que font les entreprises de l'ESS, et pas par défendre l'ESS en soi, mais à raconter des histoires. Et parce que des jolies histoires, dans le vrai beau sens du terme, de ce qu'elles produisent en termes de bien vivre, comme on le dit maintenant, de sens, de valeur pour chacun, dans une période d'éco-anxiété où tout le monde ne va pas très bien, plus la crise, le Covid, la guerre en Ukraine et j'en passe, se dire, bah là, ça produit souvent dans l'ESS des choses qui donnent des perspectives, qui donnent à imaginer un monde qui est quand même plus optimiste que celui qu'on nous propose, et pas seulement comment on fait dans ce monde qui nous paraît, dont on paraît un peu dépossédé. Je trouve qu'on reprend main sur sa vie, on devient à nouveau acteur de sa vie par l'ESS, puisqu'on peut s'impliquer, puisque c'est collectif. Et je trouve que c'est autour de ça que peut-être il y aurait à travailler, justement sur cet engagement citoyen dont on parlait tout à l'heure, pour porter ce message de l'ESS et faire un peu plus mouvement que juste défendre en soi le terme qui soit économie sociale et solidaire ou ESS, mais plutôt partir d'une mise en récit. Alors, le terme est très galvaudé, hein, sur ce terme de mise en récit maintenant, mais au moins en tout cas c'est la vocation que nous on s'est donnée à Village, peu importe le statut, mais des initiatives qui sont porteuses, selon nous, de sens qui reste. Il ne s'agit pas d'être angélique et de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais se dire où est-ce que j'ai des marges d'action, comment je peux agir, que ce soit pour la finance, pour l'écologie, pour l'habitat, pour tous les sujets, la mobilité, la santé, etc. Et là, ça mettrait vraiment en avant et ça montrait à quel point ça pèse. Voilà, c'est pour compléter.
Et alors, comment on la développe, cette voie? Comment se fait-ce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire n'arrivent pas à parler d'une seule voix, n'arrivent pas à avoir un lobby et du coup à peser davantage, malgré les chiffres, sur le gouvernement et sur l'Europe? Peut-être qu'on en parlera également dans quelques instants. Vous avez une petite hypothèse, Jean-Louis, là-dessus, sur cette absence de communication? On est là pour ça aujourd'hui, hein, mais...
Je pense que la première chose à voir, c'est, reprenons ce que disait Jean à l'instant, l'économie sociale et solidaire, d'abord, ne devrait pas se contenter des miettes. Aller mendier aujourd'hui 40 millions, c'est juste grotesque. Il faudrait que l'économie sociale et solidaire s'organise pour dire c'est un scandale qu'aujourd'hui, dans une période de transition nécessaire, il n'y ait que 40 millions dans le budget de l'État qui soient consacrés à cette économie. Ça serait ça qui serait une capacité à dire non. Finalement, ce que font les institutions, ce n'est plus possible. Il n'est plus possible de rester dans cette mendicité. Ce que nous voulons, c'est une pleine légitimité. Je crois que l'histoire, on pourrait expliquer pourquoi, mais l'histoire de l'économie sociale et solidaire fait qu'elle a toujours essayé de concilier, de s'arranger avec ce qu'on lui proposait. Je pense qu'aujourd'hui, si elle veut être une force de transformation et pas simplement une instance de réparation, il faut qu'elle soit en mesure parfois de dire non, ce qui est fait là, ça ne va pas. Et nous protestons. Il faut aussi que le registre revendicatif soit plus assumé, me semble-t-il, par l'économie sociale et solidaire, sinon elle n'est pas respectée par ses partenaires. Et je crois que ça renvoie à une autre ambiguïté constitutive de l'économie sociale et solidaire dont il faut se débarrasser aujourd'hui, c'est que on voit bien les argumentaires sur l'économie sociale et solidaire tels qu'ils se sont déroulés dans les 50 dernières années, on oscille perpétuellement entre l'idée de dire « oui, nous sommes une économie bien sage qui va être aussi efficace et efficiente que le capitalisme dominant » ou alors « nous sommes une alternative ». Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas dire les deux. Il faut choisir.
Elle oscille trop entre les deux, elle n'arrive pas à se situer.
Elle n'arrive pas à se situer. Est-ce que c'est une force d'appoint ou est-ce que c'est une alternative ? Et je crois qu'aujourd'hui, la situation est tellement grave. Et là, on pourrait reprendre pourquoi. Tellement grave parce que nous sommes aussi aujourd'hui au moment où nous n'arrivons pas à régler les problèmes sociaux et écologiques et nous sommes menacés par la régression autoritaire ou totalitaire. Nous sommes menacés par les démagogies d'extrême droite. Et dans ce moment-là, je crois que l'économie sociale et solidaire ne peut être véritablement crédible que si elle s'affirme comme une alternative qui n'est pas seule, comme le disait Sylvie, c'est-à-dire une alternative avec plein d'autres initiatives citoyennes sur les territoires, mais en tout cas une alternative, et pas quelque chose qui doit prouver qu'elle est aussi efficace et efficiente que le système dominant, parce que le système dominant, il est en train de nous conduire à notre perte. Et ça, je crois qu'il faut s'en rendre compte.